Ben, on a au bout du fil l'ingénieur Brian Morse du département de génie civil et de génie des eaux de l'Université Laval qui fut mandaté justement par le gouvernement du Québec pour l'installation des estacades. Bonjour, Monsieur Morse.
Bonjour, Catherine.
Un peu plus, là, moi, je pensais que le ministère de Sécurité publique avait mandaté le maire de Beauceville pour l'installation des estacades. Là, je pensais que c'était plus vous, là.
Non, je sais pas vraiment ce que fait le ministère de la Sécurité publique, mais selon toutes mes communications avec le ministère, ils ont jamais demandé au maire de Beauceville d'installer l'estacade. En fait, ils ont, avec mes communications avec le ministère, ils appuyaient entièrement ma recommandation de ne le pas installer.
Et lorsque vous avez pris connaissance là, du fait que Beauceville avait déjà installé les estacades, avec les sapins puis tout, là, ça a été quoi votre réaction à ce moment-là?
Ma réaction, c'était que c'est un maire qui tient à cœur son monde. C'est un maire qui veut. Ça m'a pas surpris parce que ça fait des mois que je travaille avec M. Veilleux, puis il est très dynamique. Il a poussé fort pour avoir ces estacades-là. Puis à certains moments, il était très frustré. Moi aussi, d'ailleurs, j'étais très frustré. Puis quand il l'a fait, j'ai dit, je l'ai à un niveau émotionnel, là, je l'ai compris parfaitement. À un autre niveau, évidemment. Je trouvais ça dommage, mais ma réaction était plus émotionnelle puis à ce niveau-là.
Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas été en mesure d'installer la fameuse estacade à l'eau libre un peu plus tôt, finalement? Là, c'est le ralentissement dans ce dossier-là, il provenait d'où?
Ça a l'air tellement simple de mettre une estacade sur l'eau, mm-hmm. mais en fait, c'est il y a tellement d'étapes à suivre. Je vais juste vous en nommer quelques-uns, là, mais d'ailleurs, premièrement, il faut prendre la décision de le mettre. Ça a pris des semaines, OK? C'est pas donné, cette affaire-là. Ensuite, il faut la localiser. Il faut aller sur le terrain, voir, OK, où sont les effleurements rocheux et tout ça. Il faut identifier les sites. Une fois les sites identifiés, là, on a fait les observations des courants, la modélisation de la rivière pour savoir quels sont les courants, les forces, etc. Alors, une fois qu'on a dit oui, ça devrait être les bons sites, il fallait avoir la collaboration des riverains, des propriétaires de ces lots-là. Il y en a qui ont dit non. Alors là, il fallait changer de place. Il fallait refaire le design. Une fois que le design a été fait, là, il faut envoyer une demande, il faut préparer une demande de certificat d'autorisation, puis juste pour vous donner un exemple, ça nous a pris 3 mois à le préparer pour Saint-Raymond, ça nous a pris 3 jours à le préparer, ou mettons une semaine à le préparer pour Beauceville, c'était très, très vite, on a eu une collaboration avec Beauceville, c'est Beauceville qui a fait la demande, puis ensuite, normalement, le ministère de l'Environnement, c'est des mois là, pour évaluer une demande comme ça. Ils l'ont fait très rapidement. Ils sont revenus avec des questions. Puis là, il fallait qu'on trouve des réponses aux questions, leur soumettre des réponses. Puis ensuite, ils ont dit un oui assez très rapide, en fait. Ça fait qu'au moment qu'on avait la permission de le faire, bien là, il faut aller en appel d'offres mm-hmm. pour acheter le corps, pour trouver les fournisseurs d'ancrage, les foreurs. Il y a des règles à respecter. On est des institutions publiques. Il faut respecter les appels d'offres et tout ça. Alors, il y a tout un processus à suivre à ce niveau-là. On l'avait déjà commencé avant pour accélérer le plus qu'on pouvait. Puis, on a passé le plus droitement qu'on a pu passer pour octroyer les contrats de forage les câbles. Et ensuite, le forage, ça a pris beaucoup de temps. Des foreurs, des machines cassées, la découverte de puits artisanales, des tuyaux cassés, etc. Il fallait faire un deuxième forage, un deuxième trou, recommencer à neuf avec des nouvelles machines. Ensuite, on est allé chercher une autre machine. On a payé un surplus à l'entrepreneur pour qu'il travaille en parallèle à deux endroits. Finalement, le roc était beaucoup plus profond que tout le monde pensait. Puis, parce que, évidemment, qu'il fallait qu'on change de site, puis on n'a pas pu travailler au site initial, et où il y avait des effleurements rocheux, ça fait que c'était très long à trouver le roc. Puis ensuite, il faut faire les ancrages, il faut attendre que le béton mûrisse, il faut installer les têtes, et puis ensuite, l'assemblage de l'estacade, puis la pose. Ça fait que c'est très long, c'est compliqué. Mm-hmm.
Donc, c'est un long processus. On voit que peut-être qu'il y a différents intervenants à travers tout ça. C'est où que ça a le plus accroché, où ça a le plus retardé l'installation de ces estacades-là?
Bien, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde avec qui j'ai travaillé, ils ont travaillé très, très fort. Je donne un exemple, la ville, Beauceville. La préparation de la demande de CA. Monsieur Richard Longchamp, là, il a travaillé, il a mis ça en priorité, il a travaillé fort, il a eu l'appui du directeur de la ville, Monsieur Nunez. Moi, j'ai envoyé mon étudiant sur le terrain pour faire la caractérisation des sites, de ce qu'il y a comme flore et faune, etc. Le ministère de la Sécurité publique, il donnait des approbations rapides, aussitôt qu'il pouvait, dans chaque cas, là, de façon, comment dire, ils ont toujours validé qu'on avait la bonne information et tout ça, mais aussitôt que l'information était là, ils ont donné des autorisations très, très rapidement, des fois en dedans des heures, des fois en dedans de jours, ça dépendait de la complexité de la demande. L'Université Laval a accepté de payer une facture de 50 000 $ ou 45 000 $ pour les câbles sans avoir reçu les câbles. C'est quelque chose qui est presque jamais fait, mais on savait, on avait à cœur de l'avancer le plus rapidement possible. Sinon, le fournisseur de câbles, il a dit non, je vous livre pas les câbles parce que c'est du custom made. Ça fait que tout le monde, à tous les niveaux, ils ont travaillé comme des fous là, pour faire le plus rapidement possible. Ça, je vous le dis honnêtement. Puis la compagnie de forage, c'était beaucoup plus long que prévu. Mais chaque fois que leurs machines ont cassé, ils ont tout de suite, la journée suivante, ils arrivaient avec une autre machine. Comme là, présentement, il y a une machine cassée là ce matin ou hier. Tout de suite, ils vont chercher une autre machine. Ça fait que, parce qu'ils travaillent encore le dernier ancrage là, pour l'estacade nord. Ça fait que moi, ça c'est ma vision des choses là.
Monsieur Morse, en sachant tout ça, là, que tout le monde ne s'est pas traîné les pieds, tout le monde a fait un bon travail, on arrive quand même à une date du 23-24 décembre avant d'avoir tout le matériel en place, ce qui est beaucoup trop tard parce qu'il aurait fallu installer l'estacade plus vers la fin novembre pour avoir les conditions optimales. Est-ce que l'erreur n'a pas été de présenter ce projet-là à la population le 15 octobre alors qu'on n'avait aucune assurance que les estacades auraient pu être posées à temps? Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre à l'an prochain tout simplement?
Alors, ça dépend de votre point de vue. C'est toujours plus safe là, de dire, on peut pas, c'est impossible, faites pas des attentes, là, c'est impossible, puis on n'essaye pas. Puis là, tout le monde est clean, il n'y a personne qui peut revenir contre nous ou contre personne, c'est impossible. Mais ce qu'on a dit le 15 octobre à la population, moi je l'ai dit là, noir sur blanc, j'ai dit ça va prendre normalement de 8 à 10 semaines. Ben, si on prend le 15 octobre, on ajoute 8 à 10 semaines, on est rendu le 23 décembre. Mm-hmm. Puis moi, je leur ai dit, puis ça, après qu'on a le permis de certificat d'autorisation, ça incluait pas le permis. J'ai dit, une fois qu'on a le permis, ça va prendre normalement 8 à 10 semaines. Mais on n'avait pas encore la permission des propriétaires ce soir-là. Mm-hmm. Alors, voulez-vous que votre ville, que Beauceville tente rien? Voulez-vous que le ministère tente rien? Voulez-vous que l'université, on est là puis on est safe, ou voulez-vous qu'on essaye?
Mais là, justement, la ville a tenté de la poser. Donc là, vous dites, vous, que c'était peut-être pas une bonne idée là, de la poser le 23 décembre, c'est ce que vous dites?
Là, ben, ils l'ont posé le 24, puis non, 24. C'était trop tard. Jeudi matin, j'ai écrit à Beauceville, puis au ministère, je pense qu'à Beauceville, certainement au ministère, disant, la rivière est encore découverte. Oui, on le met. Puis la compagnie d'ancrage, ils nous ont dit, on peut pas l'a fixé avant midi le 23 décembre parce que le béton n'est pas encore mûr. Ça va être mûr midi le 23 décembre. Nous autres, on avait tout préparé pour qu'on soit prêt midi le 23 décembre. Tout était prêt pour la pause. Tout le monde était stand-by. C'est juste que jeudi plus tard, dans la matinée, on a eu l'information que, naturellement, le couvert de glace s'est formé dans ces heures-là. Puis ensuite, vendredi, on a fait l'assemblage au cas où ce couvert de glace était instable puis il ne resterait pas. On dit, on va être capable de mettre l'estacade lundi si jamais le couvert ne s'ancre pas correctement naturellement. Mais lundi matin, on a vu là, que le couvert était complètement stable et ça sur des kilomètres de longueur dans la rivière. Ça fait qu'il n'y avait aucune pertinence. C'était complètement utile de le mettre. La rivière a fait le travail d'elle-même naturellement.
Et au moment où on se parle, l'estacade a été posée sur le couvert de glace d'une certaine façon. Et là, le ministère de la Sécurité publique, et votre avis aussi, c'est qu'il faut le retirer parce qu'il pourrait y avoir une déstabilisation du couvert de glace. À quoi on s'expose là dans les prochains jours si l'estacade reste en place?
Bien, premièrement, ce qu'on avait promis à Notre-Dame-des-Pins, puis ce qu'on avait évoqué dans le certificat d'autorisation, c'est que si jamais il y avait un risque d'un débarque, une déstabilisation du couvert de glace, qu'on détacherait l'estacade des ancrages. Alors, si jamais il y a un train de glace qui descend, une déstabilisation, quoi que ce soit, si jamais il y a une force qui est exercé à cet endroit-là, bien, la porte va ouvrir. L'estacade, il n'est pas retenu par aucun ancrage. Ça fait qu'il ne cause aucun obstacle à la glace qui descend la rivière. Alors, puis Beauceville s'est engagé de le décrocher là, d'ici demain. Alors, il n'y a pas de risque, même si, comme il y a samedi, on pense pas que le couvert va partir, mais j'ai envoyé une note au partenaire disant qu'il faudrait être vigilant d'ici samedi pour voir si le système de puits qui est prévu, ça serait pas pire que prévu. Parce qu'il y a des scénarios de système météo produits par Environnement Canada qui indiquent que c'est possible qu'on a vraiment une grosse pluie et nos modèles nous indiquent que si cette pluie-là tombe, ça va être suffisant pour faire un train de glace et causer des embarques sur la rivière. Alors, sachant qu'il y a cette faible probabilité, mais une probabilité réelle, on veut la déclencher avant samedi, ce que la ville de Beauceville s'est engagée à faire. Mais moi, ce que je dis, le couvert de glace est là, alors vaut mieux le retirer carrément, on l'aura pas dans les pattes, puis de toute façon, il faut que ce soit retiré. Ça fait que ce serait plus prudent, plus facile de le retirer là que d'attendre.
Alors, en le détachant comme ça, si jamais le train de glace partait, est-ce que les câbles et les sapins partent avec les glaces?
La conception fait en sorte que on défait juste un bout pour que ça ouvre comme une porte.
OK.
Pour pas qu'elle se trouve dans le fleuve Saint-Laurent éventuellement, là. Alors, c'est ça qui est prévu, qu'on détache juste un bord puis ça s'ouvre comme une porte, là. Je dis pas qu'on perdra pas quelques sapins. Oui, on va en perdre quelques-uns. Mais une des raisons pour lesquelles on a choisi des sapins épinettes, là, c'est que, justement, c'est naturel puis c'est pas de la plastique puis ça qui se rend à l'océan.
Parfait.
Et en plus de l'installation là, d'estacades, il y a d'autres solutions quand même qui pourraient être complémentaires à l'installation d'estacades. On pense entre autres à les véhicules, le style tout-terrain russe qui pourraient venir briser les glaces. Est-ce qu'on a parlé avec le gouvernement là, déjà d'un futur, on va installer les estacades éventuellement, mais d'une solution complémentaire à ces fameuses estacades?
Alors, lorsqu'une ville demande de l'aide au ministère dans ce programme-là, la procédure qu'on suit, c'est qu'on évalue les vulnérabilités de la ville, les dommages causés à différents niveaux sur les résidences, les industries et et le risque aux êtres humains, les personnes, les ménages exposés. Alors, on fait tout un calcul du risque pour comprendre l'enjeu. Ensuite, on regarde la rivière et on dit, c'est quoi le comportement de cette rivière-là? Quelles sont les chances que avoir telle inondation de tel type, tel niveau, etc. Ça fait qu'on fait une étude sur une rivière. Normalement, c'est une étude sur 3 ans parce qu'une rivière est toujours en train de se présenter de différentes façons. Puis ça prend normalement 3 ans avant qu'on comprenne une rivière. Nous, on est sur la Chaudière formellement depuis 2 ans. Ça fait qu'on le comprend pas mal bien maintenant. Et là, on dit, OK, si on comprend le comportement de la rivière, puis on sait à quel niveau d'eau, quels sont les dommages, quels sont les risques, qu'est-ce qu'on peut faire pour soit réduire la vulnérabilité de la ville, par exemple, le monde des protocoles, puis des réglementations, puis des imperméabilisations et tout ça, ou qu'est-ce qu'on peut faire dans la rivière convaincre la rivière ou inciter la rivière à agir d'une façon autre que naturellement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, par exemple, bâtir un barrage ou quelque chose du genre, où on change le comportement de la rivière? Et l'autre front qu'on travaille, c'est qu'est-ce qu'on peut séparer la vulnérabilité de la population du comportement de la rivière. Par exemple, une digue, ça fait une séparation entre ce qui fait la rivière puis ce qui fait puis le monde qui habite. Ça fait qu'on regarde toutes les mesures à tous les niveaux. On regarde la rivière, on regarde les digues, on regarde les vulnérabilités. Et on n'a pas de préconception. On n'arrive pas là en disant faut que ça soit ça ou faut que ça soit ci. Tu sais, faut pas toucher à la rivière, c'est juste la population. Ou il faut juste toucher à la rivière, faut pas demander aux riverains de s'ajuster. Non, on arrive là. Puis selon chaque cas, parce que c'est toujours du cas par cas, on essaie d'évaluer les mesures de mitigation qui nous semblent le plus aptes à répondre à la situation. Et là, on les présente. Et on va voir le retour de la municipalité. On va voir le retour du ministère. Souvent, on va travailler avec un comité de citoyens aussi. On va voir le retour du comité de citoyens. Puis aussi, des fois, on va consulter des autres ministères, le ministère de l'Environnement ou d'autres, pour avoir leur avis. Et on essaie de bâtir un consensus. Quelles sont les meilleures mesures à prendre pour réduire le risque de façon la plus durable et la plus abordable et la plus intelligente? Puis on essaie de faire un plan. Une fois que le plan est fait, puis tout le monde est d'accord avec ce plan-là, bien là, dans le programme CPS du ministère de la Sécurité publique, ils vont venir à l'aide à la municipalité. Normalement, ils payent 75% le ministère, puis la municipalité va payer 25%, puis ils vont réaliser les travaux. Alors, ça, c'est en général comment ça fonctionne, le programme. Dans le cas de Beauceville, nous, à date, là, on a évalué, on est en début de processus d'évaluation, mais on a regardé, par exemple, bâtir des barrages dans l'eau du bassin. On a regardé installer des digues, différents types de digues à différents endroits. On a regardé mettre un barrage gonflable proche de Scott. On a regardé mettre un peigne de glace, ce qu'on appelle un ice control structure, proche de Beauceville. On a regardé faire la gestion du débit du barrage Sertigan, du barrage Lac Mégantic et du barrage à Saint-Georges. Y a-t-il une façon de gérer le débit différemment pour réduire le risque? Et on aurait aussi regardé le dragage. Alors, un dragage local où il y a des amas, et plus aussi un dragage régional. Ça fait qu'on regarde tout. On fait la modélisation avec des ordinateurs. On est sur le terrain, on fait des observations. On a presque 100 instruments sur le terrain cet hiver pour tout observer, les températures, les niveaux, les concentrations de glace, les épaisseurs de glace. On va faire très probablement une campagne de bathymétrie de la rivière cet hiver. Ça fait et là, on va présenter des recommandations préliminaires ou des recommandations qu'on pense sont gagnantes. On va avoir la rétroaction du ministère, de la municipalité et possiblement des citoyens et possiblement d'autres ministères. et de d'autres personnes qui ont affaire avec ça. Et ensuite, on va venir avec comme une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis au fur et à mesure, on va peaufiner le plan d'action, puis finalement, ça va sortir en plan d'action, puis en travaux.
Ce plan d'action-là, il va être sorti quand? Parce que là, concrètement, là, les estacades pour cette année ne seront pas utiles. L'autre estacade en aval des rapides ne sera pas installée non plus, c'est ce qu'on comprend.
Bien, ça, il n'y a pas de décision là-dessus encore. Pour le moment, ce qui est sur le status quo, si on veut, c'est que oui, on va tenter de mettre un câble à cet endroit-là parce que son comportement est très différent du comportement de l'estacade sud dont il y a question aujourd'hui. Là. Mais les ancrages ne sont pas préparés encore. Ça fait qu'on va voir l'évolution de la glace. Puis l'évolution de la rivière, puis on va prendre décision là-dessus. Mais c'est prévu d'installer l'estacade nord. Là. Pour le moment, c'est prévu. Je dis pas que ça va être. Les décisions sont dynamiques, si on veut, là, parce que ça dépend de la situation sur la rivière, etc. Si ça vaut la peine ou non de l'installer.
Allez, en terminant, très rapidement, s'il n'y avait aucune loi environnementale, ce serait quoi selon vous, avec tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure, tout ce que vous avez étudié, la meilleure solution pour stopper la formation d'embarque en Beauce?
Premièrement, on ne peut pas les stopper. C'est trop naturel que ça se passe comme ça parce qu'en haut, c'est une pente raide, puis à Beauceville, c'est une pente douce, puis ils sont au début de la pente douce. Ça fait que c'est l'endroit naturel pour les embarques. À Saint-Joseph et ailleurs aussi, là, c'est naturel. Alors, on ne peut pas vraiment stopper la rivière de faire des embarques. Mais est-ce qu'on peut les réduire? Est-ce qu'on peut faire autre chose? On est au début, là. C'est très difficile. Puis, quand, mettons qu'une université, avec nos modèles, puis tout ça, on a une proposition ou une recommandation, il faut que ça soit validé, là. On n'a pas toute l'information. Le monde du coin, ils ont de la connaissance qu'on n'a pas. Ça fait que souvent, on va le présenter, puis ils vont dire non, ça ne tient pas la route, ou avez-vous pensé à autre chose? Mais le dragage m'intéresse beaucoup.
Ah, quand même, parce que ça intéresse beaucoup les citoyens. Allez-vous vouloir nous reparler éventuellement, M. Morse?
Oui, mais c'est vraiment. On a déjà écarté des choses comme, par exemple, bâtir des barrages là en haut dans les bassins versants, là, on l'a écarté déjà parce qu'on voit que ça donne rien. Mais là, on est au début du processus. Là, ça fait seulement quelques mois qu'on est dessus, puis il faut que ça mûrisse notre réflexion puis notre modélisation. Puis aussi, il faut qu'on aille chercher des données. Par exemple, par rapport au dragage, c'est pour ça qu'on veut faire une campagne de bathymétrie. On a déjà fait une campagne en octobre ou novembre là, des hauts fonds suite à Irène. Là, il y a eu beaucoup de dépôts de gravier. Mais on veut aller plus profondément dans la rivière puis faire une bathymétrie cet hiver pour savoir est-ce que le dragage, parce que le dragage peut coûter assez cher, puis il y a l'aspect environnemental aussi, il y a l'aspect permis aussi, mais il faut qu'on va chercher cette bathymétrie-là, qu'on les mette dans nos modèles, qu'on fait tourner nos modèles avec ou sans dragage, voir c'est quoi le coût-bénéfice, puis etc. Mais ça m'intéresse beaucoup.
Merci beaucoup, Brian Morse, pour ces explications-là.
Bienvenue, bonne soirée. Bon week-end à tout le monde. Surveillez votre rivière.
oui, on est aux aguets.
On vous l'assure.
Merci beaucoup. Il est ingénieur et professeur, bien sûr, au département de génie civil et des génies des eaux aussi de l'Université Laval.